إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فقد تحدثنا قبل أسبوعين عن محبة الله جل وعلا وبواعثها ولوازمها وكان المفروض أن نتحدث الأسبوع الماضي عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقتضت الحاجة إلى أن نبين للناس خطورة التكفير حتى لا تزل الأقدام فيه وها نحن اليوم نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي وجبت على كل مسلم ومسلمة فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم منظر عجيب وتصرف فريد لا يمكن أن يحدد كنهه هو صورة مرسومة في خيال المؤمن فحسب فتعالوا بنا يا إخواني لنتأمل كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحسبون محمدا فإن التأمل في محبتهم له قد يكون أوضح من آلاف الدروس والخطب أيها المحبون لنبيكم عليه الصلاة والسلام في حديث طويل عند البخاري في صحيحه في قصة الحديبية قال ثم إن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوالله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم بأمر ابتدروه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا الحديث الله أكبر محبة تترجمها الأفعال قبل أن تقال ووالله لقد صدق عروة فما أحد في الدنيا قد أحبه أصحابه مثل هذا الحب حتى الأم مع رحمتها وحبها لوليدها وعطفها عليه فإنها أبدا لا تدلك جسدها بنخامته ولا تحتفظ بشعره ولن نرى محبا أو عاشقا في سجل التاريخ قد دلك نخامة حبيبه على جسده أو بادر إلى فضلة ما اغتسل به فاغتسل به أو شربه أيها المؤمنون هذه صور من صور محبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم له كأنها الأساطير وهي والله حق اليقين لكنها فاقت في حقيقتها واسع الخيال ويوم أحد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فقد اشتد العراك بين يديه واشتد الحصار عليه ولم يكن حوله إلا تسعة نفر، فناداهم عليه الصلاة والسلام: هلم إلي، أنا رسول الله. فسمع المشركون صوته فكروا إليه وهاجموه ومالوا عليه بثقلهم، فجرت بينهم وبين النفر تسعة ما أظهر نادر الحب وعظيم التفاني، كما روى مسلم في صحيحه أنه انفرد عليه الصلاة والسلام في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فما زال هكذا حتى قتل السبعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. والقرشيان هما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فقد قاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان، فلم يستطع أحد من المشركين مع كثرتهم الوصول للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد شلت يد طلحة وهو يقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ولما علم الصحابة بعدم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وسمعوا صوته فاؤوا وأسرعوا إليه وأقاموا السياج حوله بأجسادهم، وفي مقدمتهم صاحبه في الغار. ولقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. قال أبو بكر رضي الله عنه: فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ ينظمه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه حتى نذرت ثنية أبي عبيدة، ثم نزع أبو عبيدة الحلقة الأخرى التي كانت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نذرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. كما أن أبا دجانة رضي الله عنه قام فترس على النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع عليه فلا يتحرك، وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، امتص الدم من وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مجه. فقال: والله لا أمجه. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيدا. وللنساء أيضا أيها الأخيار موقفهن للتعبير عن عظم المحبة له. لما حدث للمسلمين ما حدث في غزوة أحد، رأت أم أيمن بعض المسلمين يريدون دخول المدينة، فأخذت تحثو في وجوههم التراب وتقول لبعضهم: هاك المغزل وهلم سيفك. ولسان حالها يقول: أين تذهبون؟ الرسول خلفكم يتعرض للخطر وأنتم هاربون، اتركوني أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنها وأرضاها. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد ودفن الشهداء ورجع إلى المدينة، لقيته امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها في المعركة، فلما نعوا إليها ما صرخت ولا بكت ولا ذرفت الدمع من عينيها، بل قالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليه حتى رأسه، ثم هدأت وسكنت ثم قالت كل مصيبة بعدك جلل فلم تبك زوجا ولا أبا ولا أخا فكلهم عندها فداء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الصديق فلقد كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم عجبا، وما قصة الغار عن أذهاننا ببعيدة، ولا بكاؤه يوم الهجرة ولا مواقفه العظام كذلك. نكتفي بذكر قصة عظيمة يرويها لنا أنس رضي الله عنه فقال جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ لأتيناه، فقال أبو بكر رضي الله عنه لأنت حق أن يؤتى إليك يا رسول الله، وأسلم أبو قحافة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له هذا يوم فرحة، فأبوك قد أسلم ونجا من النار إن شاء الله، فما الذي يبكيك؟ تخيل يا أخي ما كان جواب أبي بكر رضي الله عنه، قال لأني كنت أحب أن الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس أبي ولكن أبو طالب، لأن ذلك كان سيسعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ولما غدر المشركون بخبيب رضي الله عنه وبإخوانه من القراء فأسروه ثم أعطي لأهل مكة ليقتلوه، ووضعوه على الخشبة وقالوا له أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا في مكانه وتصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. وفي غزوة بدر قبل بداية المعركة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صفوف المسلمين، وبينما هو كذلك إذ وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية رضي الله عنه مستنصلا عن من الصف، فطعن النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني فأقدني، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقني، فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. أيها الناس، إن المسلم وإن عجز عن أن يستوعب حب الصحب لنبيهم صلى الله عليه وسلم حتى إن نخامته لا تقع على الأرض كما مر بنا، فإن أعجب من هذا قد حصل، فإن صنيعهم هذا لم يكن بأعجب من صنيع الجذع وهو جماد، إذ بكى الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر، فلما تركه واتخذ المنبر سمع للجذع حديد وبكاء، وما سكت حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه، فسكت الجذع وسكن. قال جابر راوي الحديث فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، فإن أذين الصبي الذي يسكن. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث قال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.
جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي هذا حظ وتنبيه ودلالة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس يجمعين. أيها المسلمون، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. كان من أتباعه له مقياسا لهذه المحبة، وإعراضه عن أمره دليلا قاطعا على نقصها أو انعدامها. فلنكن كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، هؤلاء الأصحاب الأطهار الأخيار الأبرار الذين إذا نيل من النبي صلى الله عليه وسلم نيلا زادهم ذلك يقينا به وحبا له ونصرة له باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وما يفعل الأعداء ذلك إلا لزعزعة الدين في قلوب المسلمين. فلنزدهم غيظا كيف؟ لا بسبهم ولا بشتمهم، إنما نزيدهم غيظا وخنقا بالتثبت بسنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والتشبث بهدي سيد الخلق والورى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Très chers frères, il y a de cela quelques vendredis, nous avons parlé ensemble de l'amour d'Allah Jalla wa Ala, ainsi que ce qui pousse à aimer Allah et ce qui en résulte comme conséquence. Et normalement, nous devions enchaîner avec l'amour du prophète alayhi salatu wassalam le vendredi suivant, mais à cause de la situation mondiale actuelle, nous avons été forcés, entre guillemets, de parler du danger du fait de taxer de mécréance les musulmans. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, cet amour qui est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane. Et wallahi, celui qui réfléchit et médite sur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam va voir devant lui des situations étonnantes, merveilleuses, et des façons d'agir complètement particulières. Il est impossible de les cataloguer dans des catégories précises. Ce sont des façons, des preuves d'amour qui ne peuvent s'imprégner que dans l'imaginaire du croyant. Celui qui n'est pas croyant ne peut pas y croire. Venez avec moi, mes frères, afin qu'on réfléchisse un peu et qu'on médite comment les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, l'estimaient, comment est-ce qu'ils l'aimaient, et c'est en méditant sur leur façon de l'aimer que ce sera meilleur pour nous que des milliers de cours et de prêches. Ô vous qui aimez le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez comment un des émissaires de Quraysh décrivait à ses compères qui n'étaient pas musulmans, comment il avait vu les compagnons autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, j'ai observé les compagnons de Muhammad, et wallah, Muhammad n'a pas craché une glaire du fond de sa gorge sans qu'elle n'arrive entre les mains d'un des hommes parmi eux. Elle ne touchait pas par terre. Lorsqu'elle arrivait entre ses mains, le voici qui se frottait avec le visage et la peau. Et lorsqu'il leur donnait un ordre, ils se précipitaient pour l'accomplir. Et lorsqu'ils faisaient des ablutions, presque, ils allaient s'entretuer pour récupérer les gouttes d'eau qui tombaient. Lorsqu'ils parlaient, ils baissaient leur voix et l'écoutaient avec un recueil sans pareil. Ils n'osaient pas l'observer longtemps, tellement ils le vénéraient. Lorsque Urwa est revenu à la Mecque, il a dit à son peuple, « Oh mon peuple, par Allah, j'ai visité les rois, j'ai visité Qaïsar, César, wa Kisra, Khosroès, wa Najashi, le Négus, et par Allah, je n'ai jamais vu un roi vénéré autant que comme les compagnons de Muhammad vénèrent Muhammad. » Subhanallah. Cet amour ne peut être expliqué par des mots. Ce n'est que dans la description des faits qu'on se rend compte à quel point il est énorme. Même une mère avec son enfant, elle ne prendrait pas sa glaire pour s'essuyer le visage avec ou encore la peau. Et si jamais elle coupe ses cheveux, elle ne les garderait pas, elle ne les conserverait pas. Nous n'avons jamais vu un amoureux dans l'histoire de l'humanité qui, lorsque son bien-aimé se lavait, il conservait l'eau qui coulait de son corps afin de se laver avec ou bien de le boire. Wallahi, mes frères, quand on lit comment les compagnons aimaient le prophète alayhi salatu wassalam, on a l'impression de lire des contes imaginés, des histoires qui n'existent pas. Mais par Allah, ceci est la vérité et ceci est la certitude. Cet amour-là a dépassé l'entendement humain et l'imaginaire. Regardez par exemple, lors de la bataille de Uhud, lorsque la bataille faisait rage, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé entouré par les mécréants, et leur seul objectif était d'en finir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup des musulmans qui étaient présents pendant la bataille ont pris la fuite, et beaucoup d'autres ne savaient pas où le prophète se trouvait alayhi salatu wassalam. Il n'avait autour de lui que 9 personnes. Alors le prophète, pour prévenir les compagnons qui ne savaient pas où il était, qu'il était bien là, il a crié, « Venez vers moi, je suis le messager d'Allah !» Mais les croyants l'ont entendu ainsi que les mécréants. Alors ils accourèrent et se précipitèrent sur lui afin de le combattre et de le tuer. Et ils y mirent toutes leurs forces. Une très rude bataille s'engagea alors entre les 9 personnes et tous ces mécréants. Et dans cette bataille, nous avons une fois de plus un exemple rare d'un amour immense. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était donc entre ces 9 personnes 7 étaient de Médine et 9 étaient de la Mecque. Les 9 étaient donc des musulmans. Lorsque la bataille faisait rage et que les mécréants prenaient de l'avance, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, pour motiver ceux qui étaient avec lui, qui nous défendra d'eux et il sera mon compagnon au paradis. Alors un des Médinois s'avance, combat jusqu'à ce qu'il fût tué. Et chacun leur tour, les 7 Médinois s'avancèrent, défendèrent le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'ils moururent tous. Il ne resta que le prophète et les deux mécrois. Le prophète leur dit alayhi salatu wassalam, nous n'avons pas été justes envers nos compagnons. Les deux mécrois sont Abu Talha ibn Ubaidillah et Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhuma. Et à eux deux seulement, ils réussirent à repousser les attaques des mécréants. Aucun d'entre eux n'a réussi à approcher le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce n'était pas sans risque, car Talha radiallahu anhu fut frappé au bras à un point où il fut paralysé. Le prophète alayhi salatu wassalam disait de lui, celui qui veut voir un martyr marcher sur terre, qui regarde Talha ibn Ubaidillah. Lorsque les compagnons surent que le prophète alayhi salatu wassalam était encore vivant, lorsqu'ils entendirent sa voix, ils foncèrent vers lui et tissèrent autour de lui une toile avec laquelle, avec leur corps, pour qu'il puisse être en sécurité. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a quand même été touché et blessé. Une flèche l'a frappé en pleine tête, mais il avait son casque. Mais le coup était tellement fort que les remparts du casque se sont enfoncés dans sa joue. Alors Abu Bakr radiallahu anhu s'est approché du prophète alayhi salatu wassalam pour l'en débarrasser. Et il a vu Abu Ubaïda foncer le premier. Et il a dit, je t'en supplie Abu Bakr, je te demande par Allah, laisse-moi faire. Alors Abu Ubaïda radiallahu anhu, avec sa bouche, pour ne pas faire mal au prophète avec ses mains, s'est mis à tirer doucement et délicatement le rempart du casque qui était enfoncé dans la joue du prophète alayhi salatu wassalam, en faisant attention à ne pas lui faire mal. Il a réussi à enlever la pointe de la flèche, mais il perdit une dent. Ensuite, il s'attaqua au reste du casque qui était toujours dans la joue du prophète alayhi salatu wassalam, délicatement, et il préférait tirer sur ses dents plutôt que de tirer sur la joue du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a réussi à enlever le casque, mais là aussi, encore une fois, perdu une dent. Et Abu Dujana radiallahu anhu, pendant ce temps, qui s'était mis au-dessus du prophète alayhi salatu wassalam, et qui le protégeait avec son dos, des dizaines, des centaines de flèches qui leur tombaient dessus. Et toutes ces flèches-là tombèrent sur son dos, à un point où certains compagnons radiallahu anhu ont dit, il ressemblait à un hérisson. Et Abu Dujana radiallahu anhu restait immobile, et comme si rien ne le perturbait. Et Malik ibn Sinan, le père d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhuma, lorsqu'il a vu le sang couler de la joue du prophète alayhi salatu wassalam, il s'est mis à l'aspirer et il en a rempli sa bouche. Alors il s'est levé, le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam, crache-le. Et Malik ibn Sinan radiallahu anhu a dit, par Allah, je ne cracherai jamais. Et il est parti avec le sang du prophète alayhi salatu wassalam dans la bouche, et il a combattu avec le sang du prophète dans sa bouche jusqu'à ce qu'il fût tué radiallahu anhu. Et le prophète a dit de lui, comme il a dit de Talha ibn Ubaidillah, celui qui veut voir un homme venant du paradis, qu'il regarde celui-ci. Et sachez mes frères, ô vous, les hommes, sachez que les femmes aussi, les compagnes présentes durant cette bataille, ont eu aussi des positions dignes, des plus grands hommes d'aujourd'hui, des plus grands hommes de siècles et de siècles qui se suivent. Lorsque le dessus fut pris par les mécréants, de nombreux musulmans s'enfuirent et quittèrent le champ de bataille pour rejoindre Al-Madina. Et il y avait parmi eux, parmi ces femmes, Umm Aymen, radiallahu anha, qui servait d'infirmière et qui avait avec elle une marmite et une louche avec laquelle elle abreuvait les blessés. Lorsqu'elle a vu les gens accourir et délaisser le prophète, alayhi salatu wassalam, et se diriger vers Al-Madina, elle leur barrait la route en prenant dans ses mains de la terre et du sable. Elle leur jetait sur le visage. Elle leur disait, mais où allez-vous? Tenez, prenez ma marmite. Tenez, prenez ma louche. Et donnez-moi votre épée. C'est comme si elle disait, mais où allez-vous? Le prophète, alayhi salatu wassalam, est en danger. Et vous fuyez. Donnez-moi vos épées. Donnez-moi vos armes. Que je puisse défendre le prophète, alayhi salatu wassalam. Wallah! Une femme qui vaut des milliers d'hommes, faradiyallahu anha wa ardaha. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam acheva la bataille et après avoir enterré les martyrs, il est revenu à Médine et les compagnons qui étaient avec lui
rencontra une femme de la tribu de Banu Dinar. Cette femme-là avait perdu son mari, son père et son frère durant la bataille. Ils ont été la voir pour lui faire les condoléances. Wallah, elle n'a pas crié. Wallah, elle n'a pas pleuré. Wallahi, elle n'a pas hurlé. Elle a juste demandé, comment le prophète va-t-il? Est-ce qu'il va bien? Ils lui ont dit, il va bien, alhamdulillah. Il va bien, alhamdulillah, il est comme tu aimes le voir. Elle a dit, je ne serai pas tranquille tant que vous ne me l'aurez pas montré. Alors ils lui montrèrent de loin, et là elle a dit, alhamdulillah, toute catastrophe après sa sécurité est infime. Toute catastrophe après sa sécurité est infime. Quant au prophète, quant à Abu Bakr radiallahu anhu, cet homme dont l'amour qu'il avait envers le prophète alayhi salatu wassalam est indescriptible. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, il nous l'a prouvé. D'ailleurs, le court séjour qu'ils ont passé dans la grotte est connu de tous, ainsi que la réaction qu'il a eue lorsqu'il sut qu'il accompagnerait le prophète alayhi salatu wassalam durant l'émigration. Mais il y a une histoire vraiment particulière. Cette histoire, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a conquis la Mecque et que les gens venaient se convertir devant le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr vient en portant son père sur son dos, son père qui se nomme Abu Quhafa, un vieillard qui avait la barbe toute blanche comme un nuage, et il le ramène jusqu'à le poser devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et lui, il dit, voici mon père Abu Quhafa, il vient pour se convertir. Alors le prophète lui dit alayhi salatu wassalam, pourquoi as-tu déplacé ce vieillard? Tu aurais dû me le dire, je serais venu à lui. Et le prophète Abu Bakr radiallahu anhu de dire, tu mérites plus à ce qu'on vienne vers toi, ya Rasulallah. Tu mérites plus à ce qu'on vienne vers toi, ya Rasulallah. Alors, Abu Quhafa dit la shahada, et il serre la main au prophète, alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, Abu Bakr radiallahu anhu se met à pleurer. On lui dit, ya Abu Bakr, pourquoi pleures-tu? Wallahi, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Ton père est rentré dans l'islam, et Inch'Allah, il sera sauvé de l'enfer. Pourquoi pleures-tu alors? Imagine la réponse d'Abu Bakr. Écoute cette réponse à laquelle personne d'entre nous n'aurait pu penser. Il a dit, j'aurais préféré que cette main qui serre celle du prophète alayhi salatu wassalam ne soit pas celle de mon père, mais j'aurais préféré que ce soit celle d'Abu Talib et de son oncle, car je sais que le prophète aurait été plus heureux par la conversion de son oncle que par celle de mon père. C'est quoi ça? Quel amour est aussi grand que celui-ci? À un point où certaines personnes à l'esprit mal placé pourrait se dire, non, il exagère, c'est trop, comment peut-il préférer la conversion de l'oncle du prophète qui est mort mécréant à celle de son père? Si, il le peut, car ce qui l'intéresse, ce qui l'importe, c'est le prophète avant toute chose, alayhi salatu wassalam. C'est le prophète avant toute chose, alayhi salatu wassalam. C'est sa joie, c'est son bien-être. C'est comme Khubayd ibn Adi, radiallahu anhu, qui fut emprisonné par les mécréants et qui fut livré aux gens de la Mecque. Et il comme Khubayb dans la bataille de Badr avait tué un des hommes de la Mecque, ils ont dit, on va se venger aujourd'hui sur Khubayb. Alors ils l'ont enchaîné et ils l'ont tiré jusqu'à la sortie de la Mecque, et ils l'ont attaché sur une planche, et ils se sont mis à le mutiler, à lui couper ses membres les uns après les autres, en commençant par les phalanges, jusqu'à arriver au poignet, jusqu'à arriver au coude, jusqu'à arriver à l'épaule, et on passe à la seconde main, et on passe au pied, et les gens ils rigolent, et les gens ils sont contents, et les gens ils se réjouissent de cette vision horrible. Et là, Abu Sufyan se rapproche de Khubayb et lui dit, ya Khubayb, est-ce que tu aimerais être en paix et sécurité chez toi, et que Muhammad soit à ta place? Alors Khubayb lui répond, wallah, par Allah, je n'aimerais pas que Muhammad est à l'endroit où je se trouve actuellement et il soit piqué par une épine. Et moi, je suis chez moi, tranquille. Lors de la bataille de Badr, avant le commencement de la guerre, le prophète, alayhi salatu wassalam, redressait les rangs. Il faisait attention à ce qu'ils soient droits. Il y avait un compagnon qui répondait de Siwad ibn Raziya, qui n'était pas droit dans le rang. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dans sa main une baguette, un petit bâton, avec lequel il a mis un coup dans le ventre de Siwad, en lui disant, rentre dans le rang, ya Siwad. Et Siwad, il lui dit, ya Rasulallah, tu m'as fait mal avec ton bâton. Donne-moi mon droit. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, découvre son ventre et dit à Siwad, reprends ton droit. Et qu'est-ce que fait Siwad? Il plonge, il se jette sur le ventre du prophète, alayhi salatu wassalam. Il le prend dans ses bras et il l'embrasse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne comprend pas et lui demande, mais pourquoi as-tu fait cela, ya Siwad? Il a répondu, ya Rasulallah, tu vois bien que la bataille va commencer. Et je sais pas, et peut-être que ce sera ma dernière rencontre avec toi. Alors, j'ai voulu que ma peau touche la tienne une dernière fois. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a invoqué Allah Ta'ala en sa faveur. Mes frères, il est impossible pour l'un d'entre nous de comprendre, d'arriver à englober cet amour qui était celui des compagnons vers le prophète, alayhi salatu wassalam. On a vu que le prophète crachait sa glaire et elle ne tombait pas par terre, elle arrivait dans les mains d'un de ses compagnons. Mais savez-vous qu'il y a des choses encore plus étonnantes que ceci. Tout ce qu'on a entendu comme action de la part des compagnons, radiallahu anhum, peut être considéré comme inférieur à un morceau de bois, un tronc de palmier qui avait été coupé pour servir de chair au prophète, alayhi salatu wassalam, le vendredi lorsqu'il faisait le prêche. Un compagnon lui a proposé de lui tailler une chair dans du bois comme celle qu'on a aujourd'hui. Et le jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, a délaissé ce tronc de palmier pour monter sur cette chair confectionnée par un menuisier, tout le monde dans la mosquée a entendu des gémissements. Tout le monde a entendu quelqu'un gémir, quelqu'un pleurer comme un enfant qui pleure. Et tout le monde a vu que ce son provenait de ce tronc d'arbre. Tout le monde a vu que le son provenait du tronc d'arbre. Comme Jabir radiallahu anhu nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam a entendu le tronc du palmier pleurer comme un enfant pleure. Il est descendu alors de la chair sur laquelle il était monté et il s'est mis au niveau du tronc d'arbre et il l'a pris dans ses bras et il l'a rassuré comme on rassure un enfant. Al-Hasan radiallahu rahimahullah disait, lorsqu'il parlait de ce hadith, ô vous les musulmans, ô vous les musulmans, un morceau de bois pleure et gémit, car le prophète alayhi salatu wassalam lui manque. Nous, vous, nous tous, nous méritons plus de gémir, car le prophète alayhi salatu wassalam nous manque. Le prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est la lecture dans les livres de sa vie, si ce n'est la lecture de ses paroles, si ce n'est la lecture de ses récits qui ont été relatés par ses compagnons radiallahu anhum, nous n'avons pas eu le privilège de le voir, nous n'avons pas eu le privilège de le côtoyer, d'être à côté de lui. Mais wallahi, thumma wallah, wa nas'alullaha as-sidqa fil qawli wal amali, nuhibbuhu wa nashtaqu ilayhi. Mes frères, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dis si vos pères, vos enfants et vos frères, vos épouses et vos tribus, la fortune que vous avez amassée, un commerce dont vous craignez le déclin des demeures qui vous satisfassent, vous sont préférés qu'Allah, son messager, et la lutte dans son sentier à leur patienter jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas le peuple des pervers. Mes frères, dans ce verset, il y a une incitation énorme et aussi on attire notre attention qu'il faut absolument aimer le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, nul ne croira réellement parmi vous tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, que ses parents et que tout le monde. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, quand est-ce que l'heure dernière aura lieu? Le prophète lui a répondu alayhi salatu wassalam, qu'as-tu préparé pour cette heure? Alors l'homme a répondu, je n'ai pas préparé beaucoup de prières, je n'ai pas préparé beaucoup de jeûnes, je n'ai pas préparé beaucoup d'aumônes, mais j'aime Allah et j'aime son messager. Ya subhanallah, qu'est-ce qu'on ressemble à cet homme? C'est vrai, nous n'avons pas préparé beaucoup de prières. Nous avons du mal à nous lever lorsque l'heure de la prière obligatoire arrive. Que dire alors des prières surérogatoires? Que dire alors des prières de la nuit quand les gens dorment? Nous n'avons pas préparé beaucoup de jeûnes. Nous passons le ramadan avec difficulté. Et notre seul objectif et notre seule pensée pendant qu'on jeûne, c'est quand est-ce que l'heure de Maghrib arrive? Quand est-ce que l'Eid va nous délivrer du Ramadan? Nous n'avons pas donné beaucoup d'aumônes, nos poches sont pleines d'argent, et on passe notre temps à relever nos comptes, à voir ce qui rentre et ce qui sort. On passe notre temps à amasser et à ramasser, comme si, s'il n'y avait plus d'argent, on ne pouvait plus vivre. Mais tout le monde prétend aimer le prophète. Tout le monde prétend aimer Allah Azza wa Jal. Alors le prophète a répondu à cet homme, et à nous, Inch'Allah aussi, tu seras avec celui que tu as aimé. Alors réjouis-toi mon frère, réjouis-toi mon frère, et réfléchis bien, car l'amour est une des plus grandes causes qui pousse à accomplir les bonnes actions et à délaisser les mauvaises. Et sache que la preuve qui justifie ton amour, c'est le suivi que tu auras du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la conformité que tu auras avec le prophète alayhi salatu wassalam. N'oublie pas qu'Allah Ta'ala a éprouvé ceux qui prétendaient aimer Allah et son messager en leur disant, dis, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui aime le prophète, alors qu'il le suive. Quant à ceux qui se détournent de lui, ceci n'est qu'une preuve accablante que leur amour est bien faible, pour ne pas dire inexistant. Soyons comme les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux qui, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était touché par un mal, ceci ne faisait que leur rajouter de la certitude, de l'amour. Ça ne faisait que leur rajouter l'envie de venir à son secours et de suivre ses pas. Aujourd'hui, nous voyons les gens, les ennemis de l'islam, qui cherchent à nous toucher en insultant le prophète, alayhi salatu wassalam, en insultant l'islam. Pourquoi? Seulement pour secouer les musulmans et les faire tomber et les faire changer de religion. À notre tour, que nous leur rajoutions de la haine et de la colère. Comment? Sans les insulter, sans les chercher. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Non. Et ce n'est pas comme ça que le musulman agit. Non. Nous les rendrons en colère seulement en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, en montrant que l'homme qu'on aime le plus dans cette création, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ses pas, en suivant ses traces pas à pas, et en s'accrochant fermement à sa sunna, car c'est certes le meilleur des êtres humains. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا صادقين في ادعائنا أننا نحبه ونحب رسوله. اللهم اجعلنا ممن يحب رسولك. اللهم اجعلنا ممن يحب رسولك. اللهم اجعلنا ممن يحب رسولك قولا وعملا. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم احشرنا مع أحبائه. اللهم كما حرمنا من رؤيته في هذه الدنيا فنسألك يا الله أن تجمعنا به في أعلى فراديس الجنان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والحب والصدق والمحبة والإخلاص يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعملنا من الرياء وأعملنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم هذه الدموع التي سالت على وجوه عبادك اليوم فنسألك يا الله أن تجعلها في موازين حسناتهم وأن تجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.